du monde, que c'est lui qui a tiré l'univers du néant par son Verbe émis avant toute chose, que ce Verbe fut appelé son Fils, qu'au nom de Dieu il apparut sous diverses figures aux patriarches, qu'il se fit entendre en tout temps par les prophètes, afin qu'il descendît par l'Esprit et la puissance de Dieu, le Père, dans la Vierge Marie, qu'il devint chair dans son sein, et que né d'elle, il revêtit Jésus-Christ, qu'il proclama ensuite la loi nouvelle et la nouvelle promesse du royaume des cieux, qu'il fit des miracles, qu'il fut crucifié, qu'il ressuscita le troisième jour, qu'enlevé aux cieux, il s'assit à la droite du Père. Oui, en somme, c'est ça. Qu'il envoya à sa place la force du Saint-Esprit pour conduire les croyants. Qu'il viendra dans une gloire pour prendre les saints et leur donner la jouissance de la vie éternelle et des promesses célestes pour condamner les profanes au feu éternel après la résurrection des uns et des autres et le rétablissement de la chair. Telle est la règle que le Christ a instituée, comme je le prouverai, et qui ne saurait soulever parmi nous d'autres questions que celles que suscitent les hérésies et qui font les hérétiques. Donc, on a bien la règle de foi telle qu'elle était confessée, si vous voulez, dans le à Carthage. Alors, par exemple, j'ai pris quelques exemples de son talent de polémiste face aux hérétiques. Alors, ce qu'il reproche aux hérétiques, c'est de surgir à un moment donné, sans pouvoir se rattacher à la tradition. Et c'est ça pour lui qu'il leur interdit de pouvoir discuter à armes égales avec les catholiques orthodoxes. Vous voyez. Alors, le premier point, là, c'est au chapitre 32. Sur l'apostolicité des origines et succession apostolique. Parce que, souvenez, on est quand même à quelqu'un qui est à la fin du IIe siècle, hein, donc qui est 150 ans à peine après la première lettre écrite de saint Paul. Donc on va récupérer un certain nombre d'informations qu'on n'aurait pas eues ailleurs. Hein. Alors, par exemple, le numéro 32. D'ailleurs, si quelques-unes osent se rattacher à l'âge apostolique pour paraître transmises par les apôtres, sous prétexte qu'elles existaient à l'époque des apôtres, nous sommes en droit de leur dire « Montrez l'origine de vos églises. Déroulez la série de vos évêques se succédant depuis l'origine, de telle manière que le premier évêque ait eu comme garant et prédécesseur l'un des apôtres ou l'un des hommes apostoliques resté jusqu'au bout en communion avec les apôtres. » Les hommes apostoliques en question, c'est Timothée, Tite, tous ces gens-là, Barnabé. « Car c'est ainsi que les églises apostoliques présentent leur faste. Par exemple, l'église de Smyrne rapporte que Polycarpe fut installé par Jean. L'église de Rome montre que Clément a été ordonné par Pierre. De même encore, d'une façon générale, les autres églises exhibent les noms de ceux qui, établis par les apôtres dans l'épiscopat, possèdent la bouture de la semence apostolique. Que les hérétiques inventent quelque chose de semblable. Après tant de blasphèmes, tout ne leur est-il pas permis? Mais leurs inventions n'aboutiront à rien, car leur doctrine, rapprochée de celle des apôtres, manifestera par sa diversité et ses contradictions qu'elle n'a pour auteur ni un apôtre, ni un homme apostolique. Vous vous souvenez, c'est à l'époque de la pseudépigraphie, où alors on raconte des histoires, puis on met ça sous le nom d'un apôtre. Mais là, la critique interne permet de montrer que finalement, ce n'est pas apostolique. De même que les apôtres n'auraient pas enseigné des choses différentes les unes des autres, de même, les hommes apostoliques n'auraient pas annoncé une doctrine contraire à celle des apôtres, à moins que par hasard, ce que les apôtres ont instruit n'ait prêché autrement qu'eux. Voilà la preuve où les convierons avec défi ces églises qui, sans pouvoir rapporter leur fondation à un apôtre ou un homme apostolique comme étant de beaucoup postérieurs et celles qui sont quotidiennement établies, conspirent pourtant toutes dans la même foi et en vertu de cette consanguinité de doctrine sont considérées toutes de même comme apostoliques. Non, parce que dit, voilà, il y a les églises fondées à l'origine, comme Rome, Smyrne, Antioche, etc. Et puis, il y a des églises qui se créent sans arrêt. Mais comment elles se créent? Elles se créent par division cellulaire ou par arborescence à partir des églises anciennes, de telle sorte qu'il y a une succession apostolique. Donc, que toutes les hérésies sommées par nos églises de fournir cette double preuve manifestent les raisons qu'elles ont de se dire apostoliques. Mais elles ne le sont pas, et elles ne peuvent non plus prouver qu'elles ne sont ce qu'elles ne sont pas. Aussi, les églises qui sont apostoliques de quelque manière ne les reçoivent-elles sous aucun prétexte dans la paix et la communion, vu qu'en raison de la divergence de leur doctrine, elles ne sont en aucune façon apostoliques. Parce qu'à l'époque où il n'y a pas la centralisation romaine, évidemment, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ce qu'on appelle les litterae communionis, c'est-à-dire que un évêque, voilà, va dire à son voisin, par exemple, qu'il est en communion avec lui, parce qu'il partage, par exemple, les mêmes livres bibliques, parce qu'il partage le même symbole, le même, voilà. Et ça allait jusque dans la liturgie avec le fait de mettre une parcelle de l'hostie de la messe d'un évêque dans le calice de la messe d'un autre. Voyez, pour bien montrer qu'il y a une unité qui touche au corps du Christ. L'unité du corps du Christ, eh bien, elle se manifeste dans la communion des évêques entre eux et des églises entre elles. Donc voilà, ça c'est un argument. Alors, autre argument en faveur de l'apostolicité des églises au chapitre 36. Or donc, voulez-vous exercer plus louablement votre curiosité en l'employant à votre salut? Parcourez les églises apostoliques où les chairs mêmes des apôtres président encore à leur place, où on lit leurs lettres authentiques qui rendent l'écho de leur voix et mettent sous les yeux la figure de chacun d'eux. Êtes-vous tout proche de l'Achaïe? Vous avez Corinthe. N'êtes-vous pas loin de la Macédoine? Vous avez Philippe. Si vous pouvez aller du côté de l'Asie, vous avez Éphèse. Si vous êtes sur les confins de l'Italie, vous avez Rome, dont l'autorité nous apporte aussi son appui. Heureuse Église, les apôtres lui ont versé toute leur doctrine avec leur sang. Pierre y subit un supplice semblable à celui du Seigneur. Paul y est couronné d'une mort pareille à celle de Jean Baptiste. L'apôtre Jean y est plongé dans l'huile bouillante. Il en sort indemne et se voit relégué dans une île. Donc c'est Jean, l'apôtre, qu'on identifie à Jean l'évangéliste et l'auteur de l'Apocalypse. Voyons ce
Alors
que...
lui, c'est Patmos.
Oui, c'est ça. Voyons ce qu'elle a appris, ce qu'elle a enseigné. Avec les églises d'Afrique qui lui sont unies, elle ne connaît qu'un seul Dieu créateur de l'univers, Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, fils du Dieu créateur, la résurrection de la chair. Elle associe la loi et les prophètes aux écrits évangéliques et apostoliques. C'est là qu'elle puise sa foi. Cette foi, elle la marque avec l'eau, elle la revêt du Saint-Esprit, elle la nourrit de l'Eucharistie, elle exhorte au martyre et n'admet personne à l'encontre de cette doctrine. Voilà la doctrine. Je ne dis plus qui annonçait la venue future des hérésies, mais de laquelle les hérésies sont nées. D'ailleurs, elles n'ont plus rien eu de commun avec elles du jour où elles lui sont devenues hostiles. Du noyau de l'olive, fruit doux, riche et nécessaire, on voit aussi sortir l'âpre olivier sauvage. Du pépin de la figue, si agréable et si délicieux, surgit le figuier sauvage, vide et inutile. Il en est de même des hérésies. Elles proviennent de notre souche, mais ne sont pas de notre famille. Nées du germe de la vérité, le mensonge les a rendues sauvages. Ça, c'est une idée
C'est
de.
beau, ça. C'est
Oui,
magnifique.
c'est une idée de Tertullien que c'est le démon qui vient tenter et qui vient. Donc corrompre un rameau de l'Église et qui devient du coup un sarment sec acheté au feu. Alors, après, je vous ai mis le chapitre 37 aussi, justement l'idée de prescription. S'il est vrai que la vérité doit nous être adjugée en partage, à nous qui marchons dans cette règle que les Églises nous transmettent, après l'avoir reçu des apôtres, les apôtres du Christ, le Christ de Dieu, Nous étions donc bien fondés à soutenir que les hérétiques ne doivent pas être admis à nous provoquer sur les Écritures, puisque nous pouvons démontrer, sans le secours des Écritures, qu'ils n'ont rien à voir avec les Écritures. Donc, vous voyez, c'est la différence entre la discussion de l'Église face aux hérétiques et la discussion à l'intérieur de l'Église qui peut être une controverse sur la signification des Écritures. Ça sera la théologie. Tandis que là, on est dans quelque chose qui est entre la théologie et l'apologétique qui vise les païens ou les juifs. Voilà. Étant hérétiques, ils ne peuvent être chrétiens car ils ne tiennent pas du Christ la doctrine qu'ils suivent de leur propre choix en adoptant ce nom d'hérétique. N'étant pas chrétiens, ils n'ont aucun droit sur les écrits chrétiens et ils méritent qu'on leur dise « Qui êtes-vous ? Quand et d'où êtes-vous venus ? Que faites-vous chez moi, vous qui n'êtes pas des miens ? De quel droit, Marcion, fais-tu des coupes dans ma forêt ? D'où le prends-tu, Valentin, pour détourner mes sources ? Qui t'autorise, appelle à déplacer mes bornes ?» Vous voyez, c'est pas mal envoyé. Hein. Pourquoi vous autres venez-vous semer et paître ici arbitrairement ? Ce domaine m'appartient, je le possède d'ancienne date, je le possédais avant vous, j'ai des pièces authentiques émanant des propriétaires mêmes auxquels le bien a appartenu. C'est moi qui suis l'héritier des apôtres. C'est d'après les dispositions prises par testament, d'après leur fidéicomie, d'après l'adjuration qu'ils ont faite, que j'en suis possesseur. Quant à vous, ce qui est sûr, c'est qu'ils vous ont toujours déshérité et renié comme des étrangers, comme des ennemis. Et pourquoi les hérétiques sont-ils pour les apôtres des étrangers et des ennemis, sinon à cause de la divergence de leur doctrine que chacun d'eux a inventée ou reçue selon son caprice contre les apôtres. Alors là, on n'a pas le contenu de ces hérésies. Mais si vous lisez Irénée, là, vous avez une description des théories de Marcion. Par exemple, fabuleux manipulateur des Écritures, puisqu'il retient que l'évangile de Saint-Luc et les lettres de Saint-Paul, parce que ça va dans son sens. Vous avez toutes les histoires des Valentiniens avec les disputes dans le plérôme, avec les concepts personnifiés qui tombent du plérôme, qui s'incarnent, qui cherchent à remonter dans le plérôme, avec des âmes. Donc en fait, des tas de constructions en fait, gnostiques. Et qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Et alors, parfois, ils mettent des noms chrétiens dessus. Alors, du coup, ça trompe les gens, vous voyez. Alors, Irénée, ça, le développe beaucoup. Voilà. Suite du principe de prescription, comme dit Tertullien, là où l'on trouve divergence de doctrine, il faut donc supposer que les Écritures et les interprétations ont été falsifiées. Ceux qui voulaient changer l'enseignement ont dû nécessairement disposer autrement les instruments de la doctrine. Ils n'auraient pu donner un autre enseignement sans changer aussi les moyens d'enseignement. Et de même que la falsification de la doctrine n'aurait pu leur réussir sans la falsification des instruments de la doctrine, de même, nous n'aurions pu arriver à maintenir l'intégrité de la doctrine sans l'intégrité des moyens qui permettent de l'enseigner. Qu'y a-t-il en effet qui nous soit contraire dans nos Écritures ? Qui avons-nous introduit de notre cru pour corriger, soit par suppression, soit par addition, soit par altération, tel passage trouvé dans ces livres, mais contraire à nos propres vues ? Ce que nous sommes, les Écritures le sont depuis leur origine. Et ça, c'est très vrai, parce que aujourd'hui, les philologues montrent qu'on a, par rapport à d'autres textes de l'Antiquité, très très peu de variations textuelles dans nos grands manuscrits, les quatre grands manuscrits qui ont une multitude de copies, etc. Mais en fait, les chrétiens étaient tellement conscients de l'importance des Écritures qu'ils ont mis tout le soin pour qu'elles ne soient pas que les variantes ne soient pas des variantes. Parfois, il y a des petites additions. Si vous lisez la Vulgate et puis vous lisez la Bible de Jérusalem, vous verrez parfois qu'il y a un verset en plus, pas des précisions. Enfin, mais vraiment, ça touche très peu de choses. Donc ce que nous sommes, les Écritures, le sont depuis leur origine. Nous procédons d'elles avant qu'il n'y eût rien qui fût différent de nous. Qu'y avait-il en effet avant qu'elles n'eussent été interpolées par vous? Mais toute interpolation devant être jugée postérieure, puisqu'elle vient naturellement d'un motif de rivalité, et que la rivalité ne peut être antérieure à ce qu'elle jalouse, ni de la même maison, un homme sensé ne pourra donc croire que ce soit nous qui, venus d'elle les premiers, y ayons porté une plume falsificatrice, et non pas plutôt ceux qui sont venus ensuite et qui en sont les ennemis. Vous voyez, nous, on a reçu les Écritures, on ne s'est pas posé de questions. Et puis, par contre, les autres ont dû les falsifier pour s'en distinguer. Là, l'un a de sa main falsifié le texte, l'autre le sens par son mode d'interprétation. Et alors, vous avez des interprétations, ce qu'on appelle l'hétéro-interprétation, c'est-à-dire que le principe, parfois pas conscient d'ailleurs, est pas chrétien, mais il provient d'une philosophie, par exemple le gnosticisme. Le gnosticisme, en gros, c'est un dieu mauvais qui crée le monde sensible. Et tout est interprété à cette aune-là. Et du coup, on réinterprète, par exemple, la doctrine du péché originel comme étant la trace de cette création par un démiurge mauvais du monde sensible. Alors, il continue. Valentin a beau paraître garder intégralement l'écriture, il n'est pas moins perfide que Marcion, qui a matériellement attenté à la vérité. Oui, puisque Marcion, voilà. Marcion, en effet, s'est servi ouvertement et publiquement, non de la plume, mais du fer. Il a massacré les Écritures pour les adapter à son système. Et de fait, hein, il a coupé tout ce qui lui... Luther fera pareil. Hein. Luther fait pareil. Hein. Même s'il a un timbre au Vatican, il a quand même liquidé les épîtres catholiques, là, notamment Saint-Jacques, parce que Saint-Jacques dit que la foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Or, ce n'est pas dans le principe de Luther. Donc, hop, on en déclare que la lettre de Saint-Jacques n'est pas authentique, enfin, elle n'est pas canonique. Voilà. Voilà.
Dans les Bibles protestantes, il n'y a pas ces...
Alors si, parfois, quand même, ils les mettent comme écrit deutérocanonique à la fin. Donc Valentin les a épargnés, mais c'est qu'il accommodait, je ne dis pas les Écritures à son système, mais son système aux Écritures. Et cependant, il a plus retranché, plus ajouté que Marcion, en notant à chaque mot son sens propre et en y ajoutant ses combinaisons d'êtres fantastiques. Alors, ces combinaisons d'êtres fantastiques, c'est toutes les paires de déons qui sont dans le plérôme. Alors, il y a au départ, il y a Butet, Suguet, l'abîme et le silence qui vont s'accoupler, qui vont produire d'autres couples d'éons comme ça. Et puis le dernier, c'est la petite Sophia. Elle tombe, paf, et elle tombe hors du plérôme. Elle se retrouve par terre là. Alors c'est le monde sensible. Et puis alors après, il y a un éon gentil quand même qui se dit, ben, ça doit être celui de la paire. Il se trouve tout seul. Alors c'est le Christ. Alors lui, hop, il va descendre pour récupérer Sophia et remonter. Alors Sophia, c'est aussi toutes les âmes. Qui, évidemment, en tombant, elle s'est cassée. Hein, donc, ça fait des tas d'êtres différents. Donc, il faut rassembler tout ça en un pour remonter dans le plérôme. Voilà. Vous voyez comment Valentin va utiliser des thèmes chrétiens, des noms chrétiens, mais dans un système qui ne l'est pas du tout. Alors, voilà. Donc, ça énerve Tertullien. Si, justement, c'est ça qui est quand même le comble. Hein. C'est qu'après avoir, comment dire, porté le fer contre les hérétiques, les païens, etc., en fait, finalement, lui-même, il va tomber dans la secte montaniste, qui était une secte rigoriste. Alors, il faut dire aussi que quand on lit ces textes sur De cultu feminarum, c'est-à-dire sur la manière dont les femmes se déguisent, enfin, bon, les coiffures, les maquillages, etc., bah, c'est vrai qu'il est, sur le plan moral, il est extrêmement, Il est extrêmement rigide. Hein.
Donc une secte qui était... Quel était le contenu de cette hérésie? Un rigorisme déplacé.
Un rigorisme, ça aboutit à l'ancratisme aussi, le refus du mariage, des trucs comme ça. Donc,
le refus du mariage. Mais ça ressurgit, ça, avec...
Avec les cathares, oui, ça ressurgit régulièrement, ça. À chaque fois qu'il y a du dualisme pas loin, on finit par... Alors, le pauvre, il finit par être victime un peu des hérésies qu'il dénonce.
Mais c'est bizarre, quand même.
Bah oui, c'est un peu bizarre.
C'est quand même très convaincant. Enfin, il paraît très convaincu lui-même.
C'est que vers la fin, donc vers les années 200 et...
Il est devenu gâteux.
Oui, peut-être ça.
Il est devenu gâteux, t'as dit? Il avait quel âge?
Mais je pense qu'il avait un mauvais caractère. Hein. Vous vous souvenez, ce que je vous ai mis au début, là. Je le confesse devant le Seigneur Dieu, c'est témérité de ma part et peut-être impudence de prêcher la patience dont je suis tout à fait incapable de donner l'exemple. Il n'y a rien de bon en moi. Et pourtant, il faudrait que celui qui prétend enseigner et prêcher une vertu commençât par la mettre en pratique et s'acquit le droit de prêcher par l'autorité de son exemple pour n'avoir pas à rougir de sa parole que ses actes contredisent. Alors, il y a aussi, quand même, c'est le prologue, il y a peut-être une petite captatio benevolentiae aussi. Hein. Ouais. C'est peut-être un peu noirci quand même.